Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Route Inconnue, l'émission de poésie de Radio Rancière qui vous permet de découvrir la poésie vivante, celle qui s'écrit, celle qui se publie, qui se lit aujourd'hui. Et eh bien, cette semaine, nous allons parler d'un poète qui nous est cher, que nous avons interviewé à plusieurs reprises sur nos ondes. Il s'agit de Michel Baglin, qui nous a quittés cet été. J'ai souhaité recueillir les confidences d'un de ses plus proches amis, un poète aussi que nous aimons beaucoup ici à Radio Rancière, que vous avez déjà entendu, qui s'appelle Georges Catalot. Georges, bonjour.
Bonjour.
Alors, je suppose que le décès de Michel Baglin vous a beaucoup touché. Quand je dis que vous étiez proche, c'est pas comme ça une expression en l'air, c'est vrai, hein.
Oui, c'est plus que proche, oui, c'est une amitié d'une quarantaine d'années, là, et c'est plein, plein de souvenirs qui remontent à la surface de la mémoire, et il faut arriver à dépasser l'émotion. Pour essayer de construire quelque chose à partir de ce que nous a laissé Michel.
Ouais. Avant de parler de son héritage, qui est considérable, comment vous l'avez rencontré?
Alors voilà, ben oui, c'était en 1979-80. On peut-être évoquer son parcours
Oui.
professionnel. Voilà, je pense que ça éclairera les personnes sur ce parcours absolument atypique, mais très très riche en rencontres, puisque Michel était quelqu'un de très très ouvert aux rencontres, et il était d'une générosité extraordinaire. Tout le monde en témoigne. Depuis son décès, j'ai des dizaines et des dizaines de témoignages de gens qui souhaitent participer à des hommages, etc. Voilà, alors donc Michel, après pas mal de petits boulots qu'il évoque dans certains de ses écrits, il avait pu, et de brillantes études, il avait pu avoir un diplôme de journaliste, et Fernand Cousteau, à la Dépêche du Midi, qui était quelqu'un de très avisé, avait repéré le talent du bonhomme et lui avait confié un poste de journaliste à Auch, dans Gers, avec en tête même de rédaction. Et là, il était vraiment ravi parce que il allait pouvoir faire ce qu'il souhaitait, enfin. Voilà. Et là, il a découvert à ce moment-là la richesse de la production poétique, qu'il connaissait un petit peu, puisqu'il avait publié deux ou trois petites plaquettes, quelques poèmes dans des revues. J'aimerais citer surtout Multiples d'Henri Hurtubise, qui a été un découvreur extraordinaire, puisqu'on lui doit la découverte de Serge Peille, Pierre Hautin-Grenier, Pierre Lecaux, etc., etc. Voilà. Et donc, là, il avait un terroir dans lequel il allait puiser. Et là, il a eu une rencontre absolument déterminante de quelqu'un dont on avait parlé avec toi, Christophe, que tu as beaucoup aimé, c'est Pierre Gabriel.
Oui, ah
Voilà.
oui.
Voilà. Alors, Pierre Gabriel habitait à Condom, non loin d'Auch, non? Et c'est un autodidacte très très cultivé. Il était distillateur d'Armagnac, entre autres choses, et il a rencontré Michel. Et sa poésie très lyrique et très maîtrisée avait tout pour plaire à Michel. En plus, il imprimait sur une presse à bras des modestes cahiers magnifiques qui sont introuvables, tirés à 150 exemplaires. Cette revue s'appelait Au Pays, HAUT, Au Pays. Voilà, de 67 à 80, il a proposé 16 numéros, Pierre Gabriel. Alors, il y avait des auteurs remarquables. Il accueillait chaque fois 12 auteurs avec un seul poème, et c'était de très jolis cahiers. Alors, il y avait des gens très connus, Senghor, Guillevic, Segers, André Chédid, etc. Et puis d'autres de la génération de Pierre Gabriel, comme Puel, Robert Sabatier, Malrieux, etc. Et puis des débutants, bon. Et puis des gens comme, voilà. Et donc ça a été un éclairage terrible, et Pierre Gabriel, qui était membre du jury à Rodez des prix de poésie Artaud, Voronka, etc., a invité Michel à aller faire un tour à Pentecôte lors de 3 journées. Alors là, ça a attiré des centaines de poètes francophones durant tout le week-end. Voilà. Et là, on s'est retrouvés à Rodez, quelques jeunes et fringants, poète-poète, avec des cheveux moins blancs qu'actuellement,
Et plus long.
et plus longs peut-être, oui, un peu, voilà. Et Et c'est donc durant cette période qu'a germé chez Michel l'envie de faire, de composer une revue qu'il allait appeler Texture. Alors, on peut en parler.
Oui, c'est parce que...
Alors ça, c'est aussi tout un symbole. Il y avait beaucoup de choses symboliques chez Michel, même dans ses nouvelles et tout ça, où il faudrait, il y en a qui vont le faire ou qui l'ont déjà fait. Texture, bon, venant du latin textura, qui veut dire tisser des choses. Alors c'est un des mots les plus polysémiques, dirait-on, de la langue française, puisqu'on peut trouver 12-15 définitions du mot texture. Hein. Cette riche matière verbale, évidemment, ne pouvait qu'attirer l'esprit curieux de Michel, qui cherchait à l'intituler pour son projet de revue. Et puis voilà, et puis c'est parti là-dessus. Voilà comment on s'est rencontrés. Et puis un troisième larron nous avait rejoint dans les 80-82, c'est Casimir Pratt. Petite parenthèse pour ce très très grand poète qui est à la retraite depuis peu et qui enfin, après un très très trop long silence, va se remettre à l'écriture, à la publication. Voilà, voilà le triumvirat de texture papier, puisque maintenant on faudra peut-être parler de texture écran.
Ah oui, texture numérique qui a continué d'attirer énormément de monde.
Ouais, hein. Bien sûr, même si Michel a toujours eu la nostalgie de texture papier, puisque il adjoignait à la revue écran, la revue numérique Texture, qui était, soit dit en passant, avec Poésie Bao et Le Printemps des Poètes et quelques autres, la revue de poésie la plus visitée de ce début de 21e siècle. Même lui, bon, il n'osait pas en parler, il n'aimait pas en parler, même quand le premier de chaque mois, on recevait le bilan, parce que là aussi, Big Brother était en action, avec une volonté de tout décortiquer. Et là, non, on n'en parle pas, non, il vaut mieux toujours des projets, regarder de l'avant. Et bon, il y avait une sorte de record dans le nombre de visites, de temps passé par les visiteurs, de nombre de pages visitées. Enfin, c'était quelque chose d'une richesse infinie. Ah. Mais il gardait la nostalgie, la revue papier, puisque il y avait toujours la revue du mois que les gens pouvaient imprimer. Il y avait Texture Info avec des tas de liens. Il avait une maîtrise de l'informatique hallucinante. Voilà, oui. En quelques mots, l'aventure de Texture Papier qui reste un grand moment pour beaucoup d'entre nous.
Ouais, parlons de l'homme et du poète, parce que je trouve que les deux finalement se ressemblent beaucoup de chaleur. Son écriture était chaude et nourrissante.
Oui, eh ben c'est tout à fait ça. Hein. Là, bon, les qualificatifs, on peut y aller, hein, sans forcer de trait. Bon, ce sont des valeurs de partage, hein, surtout de générosité, de fraternité, d'altruisme, de fidélité, de bienveillance, hein, qui n'exclut pas non plus la fermeté dans les choix et les convictions. Mais c'était toujours le regard tourné vers l'autre, le don, avec toujours l'impression de ne pas en faire assez pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui était un peu dommageable, et nous, en titre amical, on était quelques-uns à le mettre en garde, un peu à lui dire « Attends, Michel, faut se calmer, je pense que tu as fait un petit peu trop pour les uns les autres », en se posant la question « Est-ce qu'il le mérite ?» Et oui, mais il avait une telle générosité qui est faire la part des choses dans la générosité, c'était pas son logiciel. Ouais. voilà, donc le personnage, c'est vrai, il y avait une adéquation entre ce qu'il était dans la vie de tous les jours et ses choix politiques, poétiques, éthiques également. Ouais. Et toujours à aller de l'avant avec une capacité de travail. Enfin, je pense ne pas être en reste de mon côté, mais là, j'avoue que des personnages comme ça, je m'incline humblement à une puissance de travail phénoménale décuplée par l'arrivée de l'informatique qu'on a vu venir dans les années 90, 95. et poussé par des anciens comme Yves Heurté, Gaston Puel, qui étaient déjà à l'avant-garde là-dedans, ils avaient dit oui, vous les jeunes, là, faut pas passer à côté, là, il faut attention, avec méfiance, méfiance, c'est un outil très dangereux, ça, mais il faudra que vous... Ouais, et oui, et Michel avait maîtrisé très très tôt cet outil qu'il savait utiliser avec beaucoup de talent et de professionnalisme.
Comment qualifier cette écriture? C'est une écriture.
Ah ben, je pense que tu as utilisé un mot
Ouais.
qui me plaît beaucoup, le mot de chaleur, qu'on retrouve également dans son comportement.
Dans son
Et
comportement.
bah oui, bien sûr, parce que parenthèse, il a commencé, bon, je l'ai dit tout à l'heure, par la découverte, ça a été un flash, par les journées de poésie, où on croisait des dizaines de gens, et nous, jeunes fringants, on était assez scotchés par le comportement de certains, des gens comme Jean Rousselot, Guillevic, Sabatier, qu'on croisait à Rodez, ou Puel, dont j'ai parlé aussi, nous donnaient de sacrées leçons d'humanisme, hein. Et voilà. Et par la suite, Michel a toujours été ne disait jamais non pour des rencontres, pour construire, par exemple, l'atelier imaginaire de Guy Rouquet à Lourdes, qui a fait un travail extraordinaire depuis des décennies. Il était toujours présent, même quand il était malade, même quand il avait des difficultés professionnelles ou autres. Bon, le marché de la poésie à Paris, n'en parlons pas. Et enfin, surtout, bouquet final, hélas, les voix vives de la Méditerranée à 7, où il était une des poutres actives, hein.
Ouais.
D'ailleurs, cet été à 7, il y a eu vraiment son fantôme était partout, quoi, dans les conversations. On doit signaler le bel hommage en fin de décade qu'ont rendu Maïté Bled avec toute l'équipe des Voix Vives, et qui ont rendu un hommage qui figure sur YouTube. Ça dure 1 heure. On invite tes auditeurs à y aller faire un tour.
Absolument.
Voilà.
Ouais.
Ouais.
Alors
Donc
c'était
les rencontres,
des rencontres. Oui, homme
c'était
de
un homme de
rencontre.
rencontres. Voilà.
C'était aussi un amoureux. Il avait plein de. Il regardait en avant, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'était aussi parfois nostalgique du rail, par exemple. J'adore ces textes sur le rail, ils sont magnifiques.
Oui, c'était un des thèmes récurrents chez Michel, il y en a d'autres. Un peu plus large, c'est aussi le thème de l'exil. Hein. D'ailleurs, un des tout premiers numéros, je crois le numéro 2 ou numéro 3 qu'on avait constitué dans les années 80, s'ouvrait sur des poèmes sur l'exil au sens large, bien sûr. Sachant qu'on peut s'exiler au fond de soi-même aussi. Mais c'est vrai que les trains, cette espèce de nostalgie qu'il y avait autour des trains. Oui, mais c'était lié aussi à sa jeunesse, puisque pour pouvoir commencer à être autonome, ce qu'il souhaitait être très vite, il avait travaillé dans les trains de nuit et autres, pour distribuer des boissons, des sandwichs, etc. Donc le boulot de terrain, à travers quelques autres petits boulots, on va dire, et il connaissait, il savait de quoi il parlait lorsqu'il évoquait ces choses-là.
Écriture tournée vers l'autre, fraternelle, gourmande aussi, je trouve. On sentait vraiment une appétence pour les mots. On en a plein la bouche quand on lit Baglin.
Ah oui. Tout à fait, oui. Et puis il y avait une facilité, d'abord lire, écrire, pour lire, il avait une puissance, une vitesse de lecture qui était phénoménale. Enfin, c'est un domaine qui me plaît beaucoup et sur lequel je travaille depuis longtemps, mais chapeau casquette, il était capable de lire à une puissance, une vitesse, et alors dans un double mouvement, à la fois d'analyse et de synthèse, ce qui est très très rare, parce que, ou bien on a une lecture freinée, en essayant de comprendre avec une analyse, ou bien on veut tout de suite passer à une synthèse pour écrire un article, une chronique. Lui non, c'était à une vitesse, et c'était jamais à côté de la plaque.
Ouais.
Et que chaque fois, quand paf, ça tombait, le verdict tombait, je me disais, mais comment tu as pu faire pour lire ces 200, 250 pages comme ça, et être capable de, presque instantanément d'en rédiger, oui, parce que là aussi, bien content, hein, celui qui va essayer, j'ai essayé, moi aussi, la réputation d'être un peu archiviste, tout ça, de dénombrer les milliers de notes de lecture que Michel, non, c'est c'est pas la peine, c'est vraiment casse-gueule, on n'y arrivera pas. Parce que chaque fois qu'il lisait quelque chose, qu'il le flashait, où il sentait qu'il y avait, comme disait Rousselot, qu'il y avait de la tripe, qu'il y avait quelque chose d'humain là derrière, il voulait tout de suite le faire partager. Et le moyen de le faire partager, c'était une note de lecture, une chronique, un dossier. Et voilà, donc voilà le personnage, en gros.
Alors pour terminer, un mot, un homme d'idées aussi, un homme qui pensait, cet été nous avons rediffusé l'interview qu'il nous avait accordée après la sortie de son livre où il témoignait son attachement à la laïcité, l'être d'un athée à un ami croyant. Oui, c'était quelqu'un qui ne transigeait pas non plus sur les combats.
Non, il ne transigeait pas, il était d'ailleurs un moment, où je n'ai pas cité cette... ce fait divers qui aurait pu lui coûter très très cher, à Toulouse, lors d'un débat, et il avait fallu que des amis à lui l'enlèvent, sinon il allait jusqu'au bout de ça sur des convictions. Hein. C'est quelqu'un qui ne transigeait pas là-dessus. Hein. Et après, très très ouvert, bien sûr, qu'à parler le mot de laïcité, c'est quelque chose... à quoi il tenait absolument, et il trouvait que les dérives actuelles, hélas, qui continuent encore avec toute forme d'intégrisme, c'était vraiment la gangrène, il utilisait le mot, hélas, de cancer, il en a connu, hélas, un être qui lui a coûté la vie, mais le cancer mental, comme il disait, c'était quelque chose le plus terrible, le plus insidieux. Et à plus forte raison, si l'imbécilité et la bêtise s'y rajoutent, il n'y a plus de discussion possible.
Ouais, quoi. Ouais. Dernière question, c'est une œuvre évidemment qui va rester. C'est après la mort des gens qu'on se rend compte à quel point ils étaient irremplaçables.
Hein. Eh ben oui, voilà, tu as bien résumé la chose. Et je suis hélas bien embêté pour en parler, car depuis ces obsèques qui ont rassemblé à Seille un nombre considérable de personnes, certains venus de très loin, je voudrais citer Alain Kewes, qui est un de ses éditeurs posthumes, surtout pour les nouvelles. Alain Kewes, en enseigne des éditions Rhubarbe, va publier ou rééditer enfin un livre qui est remarquable, qui s'appelle « La perte du réel », qui avait été publié il y a plus de 20 ans aux éditions NBB à Toulouse, sous-titré « Des écrans entre le monde et nous ». Et là, j'invite tous les auditeurs à se procurer cette réédition, parce qu'on verra le côté visionnaire du bonhomme, qu'on n'a pas trop écouté, on pourra dire pas du tout, dans des essais brillants. Parce que là aussi, ce n'est pas que le poète... Michel Baglin, il y a le nouvelliste, il y a l'essayiste, il y a l'homme de théâtre, qui a Dieu n'aime pas les lèche-bottes, etc. Il y a le critique, et, bon, multicarte et multicasquette.
Ouais, avant d'en faire
et
le
bon,
tour,
ce qui fait du bien quand même, même si on ne sait pas si on va arriver au bout des projets qui sont en cours, c'est que des dizaines de projets, on va dire des dizaines, sont en cours après les hommages à chaud, hein, comme à Sète, comme d'autres réactions que j'ai rassemblées à titre amical et que, avec mon épouse Marie-Claude, nous allons transmettre à Jackie Baglin, qui a été également quelqu'un de très important, hein, sa compagne, dans son parcours. Et une fois l'épreuve du deuil passée, c'était du brutal et du violent, Nous allons lui remettre tout ça et elle découvre, on l'a eu au téléphone ces jours-ci avec Marie-Claude, elle découvre celui que j'ai appelé le poète aux mille amis, hein, avec un seul mot, comme ferait Roland Nados, tu sais.
Oui.
le poète aux mille amis, elle me s'est dit, mais j'aurais jamais cru, je savais qu'il avait des dizaines, voire des centaines d'amis réellement, mais à ce point, j'aurais jamais cru, nous a-t-elle dit. Et oui, on peut confirmer. Et puis, c'est de l'authentique.
Georges, merci. Merci infiniment de ton témoignage.
Merci à toi et merci à tous ceux qui maintiendront vivante l'œuvre de Michel. Je dis d'autres choses sont en cours, en préparation. Mais ça demande le temps de mûrir, là, dont une création d'association, sûrement, qui va se faire. Revue Texture, non, on ne peut pas reprendre, personne ne peut reprendre ouais. Après Michel, mais il n'est pas exclu qu'un blog soit créé pour signaler tous les hommages, toutes les interventions qui se feront autour de Michel.
En attendant, un grand merci à Georges Catalo pour ce beau témoignage sur son ami et poète Michel Baglin. On va écouter Claude Nougaro, une très belle chanson, une des chansons que je préfère de Nougaro, qui n'est pas la plus connue, qui s'appelle Pépé. Après quoi, eh bien, je vous lirai des passages d'un livre de Michel Baglin assez récent, un recueil de poèmes intitulé Un présent qui s'absente, paru aux éditions Bruno Doucet.
Tu vas mourir, tu vas t'éteindre. Comme une lampe de chevet, quand le matin commence à poindre, quand le bouquin est achevé, dors en paix, Pépé. Tu vas abandonner ton souffle, les taches rousses de tes mains, et repasser sans tes pantoufles le seuil du monde des humains. Dors en paix, Pépé. Je ne m'en fais pas pour ton âme, tu n'as à craindre nulle flamme, bien que tu te sois dit sans Dieu. Tu peux sans faire de grimaces regarder le soleil en face quand tu auras fermé les yeux. Un peu de toi s'en va descendre, mais tout le reste va monter. Quitter cette vallée de cendres pour une planète d'été. Dors en paix, Pépé. À belles dents, tu déjeunes. Le soir, tu soupes de peu. La vie, ça t'aiguise en jeune, puis ça te déguise en vieux. Vas-tu connaître la recette d'un repas qui coûte moins cher? Et vas-tu faire la conquête d'une beauté hors de la chair? Dors en paix, Pépé. Où tu vas, je ne puis t'atteindre. Suis-moi si tu peux où je vais. Déjà le jour commence à poindre. J'éteins ta lampe de chevet. Dors en paix, Pépé. Dors en paix,
Je vais à présent donc vous lire quelques extraits d'un des derniers recueils de Michel Baglin, Un présent qui s'absente, publié aux éditions Bruno Doucet. Premier texte, il s'intitule « En terrasse », il est dédié à Guy Goffet. Que fait-on là, posé en terrasse, le cœur brouillé et le regard rempli de cette lumière d'avril où passent des gens? Que fait-on là, café en main, un moment seul et content de l'être, dans les dernières transparences de l'hiver, à sentir le parfum d'un printemps qui s'annonce plutôt comme une fin? Que fait-on là, sur cette place où mouraient les manifs? On se souvient des mots d'alors qu'on avait envie de remplir de vie et des drapeaux qui ne servaient qu'à célébrer le vent comme des robes, oui, comme des voilures de filles légères. Mais que fait-on là à frissonner dans les vertiges du temps? Les gens qui passent sous leurs pas tassent des années, perdues peut-être ou seulement consommées. Comment savoir ce qu'il en est des heures qu'on ne compte pas, des vies qui ne comptent guère? Comment savoir si l'on est toujours de ce monde, là en terrasse, en vacances de projets et les yeux pleins d'avril, si l'on a quelque chose à dire encore à ces gens qui ne veulent recevoir que la confidence des mobiles, quelques chansons remuées, quelques bavures de l'âme. On donne une pièce au SDF, bouclant son tour de table, comme on ferme une porte au nez des importuns, et l'on suit d'un œil torve le skateboard qui racle au fond des oreilles tendres le gris dur du trottoir. Que fait-on là en terrasse? Le cœur barbouillé, un avion laisse là-haut dans un bleu livide encore la chantilly amère des voyages remis, et c'est alors qu'on sent en soi le sable qui s'écoule, la mort qui prend ses aises, une jeunesse qui remonte dans la gorge comme un sanglot ravalé longtemps. Que faisait-on là jadis en terrasse quand l'avenir donnait sur la mer? Où et quand s'est-elle donc éteinte, la lumière du muscadet, et la voilure des filles, et la ferveur des mots? Oui, que fait-on là avec des questions bêtes à pleurer, et l'ironie au coin des lèvres, juste pour se défendre de soi? Comment savoir si l'on est toujours de ce monde, là, en terrasse, et les yeux pleins d'avril? C'est un jour de beau temps, un jour à découvrir sur le canal un premier voilier remontant au moteur vers l'été, un jour à croiser des jambes nues et des chemisiers clairs, même si le fond de l'air est encore un peu frais, un jour à rentrer la tête dans les épaules pour oublier qu'on fait déjà route dans l'autre sens, pour se persuader que le calme après la tempête a du bon. C'est quoi ce remugle du temps qui s'invite en terrasse et ces printemps enfuis qui brouillent la vue? Ce n'est rien que la lumière d'avril où passent des gens, rien que le cœur qu'on dématte pour passer sous les ponts. L'enfance, partout l'enfance a semé les levains qui prolongent, sous le couvert de l'oubli, dans les vases qui fermentent, les émotions anciennes. Elle a lancé sur les rivières des radeaux que le moindre guet accroche, poudré de lentilles d'eau les canaux où crèvent les bulles de méthane qu'on enflamme d'une étincelle, d'un rien. L'enfance a oublié des barges dans ses biefs et des insectes séchés dans des boîtes d'allumettes, et l'a caché dans la broussaille poudreuse des étés des ombres et des élans freinés, abandonnés des araignées, figés sur des murs blancs. Mais l'enfance a préservé sous son aile le vent qui porte et sauve de la médiocrité et la poussée des tourbillons de sable à travers les crinières de la mer jusqu'à la plage d'aujourd'hui pour fouetter la peau froide des baigneurs et des nageurs craintifs, la chimère. Et tout cela nous fait cortège. Les pages cornées sur les mots empêchés, la comédie des chagrins, le poing serré de l'impuissance. Ici même et par le travers des ans, recroquevillé sous l'avalanche des jours, c'est tout un ailleurs qu'une enfance amène avec elle, fait d'embrun d'horizon, d'une énergie marinée dans le désespoir de ne pouvoir jamais refaire la route à l'envers. L'enfance sait tout de nos désirs et de nos plaies, et l'a conservé de notre histoire le fin mot. Sous le couvert des vases qui fermentent et des reflux du temps, elle nous ravitaille encore à l'âge où dans le provisoire on s'installe définitivement. Quartier de la gare. À Matabio, quartier des filles à l'encre et des départs, on croise des bars, des valises, le canal et son écluse, dans des regards perdus, un voyage remis et qui toujours infuse. Un clodo baguenaud de rêvant devant la gare, à ce bateau qui passe son chemin d'eau tranquille, le large dématé, la voile ravalée pour traverser penaud la ville. On croise à Matabio les trains qu'on ne prend pas, un vacarme d'horizon qui fait trembler les quais jusqu'au cœur sale d'attente dans les petits matins des fêtes. Dans la tranchée des voies au pont du chemin de fer, les rails et les rames cherchent la rime ailleurs, un train en cache d'autres, intime et de rumeurs de mer. Qu'on parte ou qu'on s'accote aux zincs du buffet, l'horloge et le percolateur distillent le même temps tous les alcools du port qui manquent à la ville rose des vents. Un poème intitulé « Bévard », « Bévard sur la Loire » et qui est dédié à notre ami Francis Krembel, qui a précédé dans l'autre monde de quelques mois l'ami Baglin. Bévard à Francis Krembel. Les deux ponts sur la Loire depuis longtemps sont rétablis. Je n'en ai passé qu'un pour m'arrêter sur l'île où Bévard surveille le fleuve, ses sables et ses grands ciels. Comment ici ne pas songer à René Guicadou, au compagnon de récré qui faisait à pied le chemin de la gare à Rochefort, à travers champs et rumeurs d'eau, jusqu'à l'échoppe d'un pharmacien prônant une médecine de poète à s'administrer sur les comptoirs de l'amitié. C'était la guerre alors et Bérimont cachait sa femme juive dans une maison perdue au fond d'un vallon proche où quelqu'un en voiture obligeamment m'a conduit en récitant des vers du poète de Louis Ferre. C'est ainsi qu'un lecteur fervent peut faire jouer en vous la mélancolique musique du temps et que vous vous demandez qui entend encore cette cloche à l'autre bout du monde dont le chant sombre dans tant de poèmes charrie le limon de la joie à l'angoisse mêlée. Les deux ponts sur la Loire depuis longtemps sont rétablis. Je n'en ai passé qu'un pour revenir de l'île, de cette maison d'un hôte, poète lui aussi, chez qui les coteaux du Layon et de Savenière auront rempli nos vers, sans parvenir à calmer mon envie un peu bête, mais taraudante et qui souvent me perd, de faire la route à l'envers, à Rochefort, à Bévard ou bien ailleurs, en repassant les ponts, qu'ils soient de fer, de pierre ou de mémoire. Aux écluses. Il y a toujours du monde aux écluses, quand se présente un bateau, des gens surgis de nulle part, de derrière les platanes du chemin de halage, d'une ferme lointaine, d'un passage oublié, tombé de la lune peut-être ou descendu de vélo. Il y a toujours du monde aux écluses, des sentinelles penchées sur les remous et l'on dirait qu'elles sont venues sous la voûte des arbres, saluées du fond des siècles avec le lent courant des biefs dans la traîne des feuilles, les puissances de l'eau. Il y a toujours du monde aux écluses, des curieux enjoués ou fascinés, le pied sur un bollard et les mains dans le dos, qui savent presque tout des mariniers, de la manœuvre et des ventelles, dont chaque tour de manivelle ouvre plus grande des sources dans les yeux. Il y a toujours du monde aux écluses, des amoureux des canaux, des ponts, des ports, des épanchoirs, battant le pavé des bajoyers pour récupérer le bonjour avec la mare et regarder dans le sas s'enfoncer entre les parenthèses des portes le voyage, un instant suspendu, d'une autre vie rêvée. Et pour terminer ce long poème, intitulé « Paris en musardant », qui est dédié à François. À Paris, quand je musarde, je renoue en silence tant de fils cassés que je perds un peu pied. Je revois les boulevards illuminés où l'on m'emmenait pour les vitrines de Noël et les scintillements mouillés de la neige fondant sur nos épaules. Je me souviens d'autres lumières encore filant derrière les vitres d'un train de banlieue qui nous ramenait le soir gare de Lyon ou sous la marquise du côté des grandes lignes comme tant d'autres gosses au bout des quais je tentais d'imaginer la mer désespérément. À Paris, quand je musarde, je renoue en silence tant de fils cassés que je perds un peu pied. Quand un métro m'amène au château de Vincennes, je refais surface à la station des autobus où nous attendions longtemps celui à plateforme et gros nez, s'il vous plaît, qui nous ballottait à travers le bois jusqu'à Champigny via le pont de Joinville, d'où je lorgnais du côté des guinguettes et des studios du cinéma. Mais je renonce à pousser encore un peu du côté de Nogent, du Perreux, car je sais que je ne reverrai pas ce pré aux vaches des bords de Marne où je fuguais à vélo pour retrouver l'herbe et l'eau et cette odeur terreuse de liberté et d'interdit qu'écrase aujourd'hui la puante autoroute. À Paris, quand je musarde, je croise en silence tant de fantômes que j'en oublie un peu les vivants. Quai de la Râpée, un métro grince au tournant, et je revois un adolescent débarquant jadis, gare d'Austerlitz pour reconquérir la ville natale trop tôt quittée. L'ami d'enfance m'y attendait, qui avait grandi en battant le pavé des quartiers dont j'ai découvert les recoins à travers nos pérégrinations et les troquets d'une bohème inventée. Place de la contre-escarpe, nous buvions en nous réclamant d'Hemingway. Impasse Florimond, nous saluions Brassens et Jeanne, et à la Concorde, bientôt, les mânes de Follin. Combien de ponts Mirabeau eut-il au bout de pèlerinages qui n'avouaient pas leur nom? Combien d'écrivains convoqués au hasard des rues, de vers éclusés pour approcher la légende. À Paris, quand nous musardions, déjà, nous croisions tant de fantômes que nous en oublions presque les vivants. Le plan du métro, notre viatique en poche, nous écrasions la clope pour monter dans la rame et nous improvisions nos points de chute à la seule musique que le nom des stations faisait aux oreilles. À Bastille, on saluait les bateaux de l'Arsenal, le canal Saint-Martin et ses écluses à Stalingrad, et Caillebotte au pont de l'Europe. Perplexe au trou des Halles, troublé rue Saint-Denis, nous poussions jusqu'à la rue Watt pour Prévert, du côté des Abbesses en pensant à Dimay, et même hors des murs, comme dit Reda, du côté du Tremblay ou de Villeneuve-Saint-Georges, en mémoire d'Ardelais, en hommage à Fallais. Vers le soir, à Montmartre, un peu noir, nous chantions fort contre les Versaillais et ce foutu Sacré-Cœur dressé comme une insulte à nos frères communards. Nous pestions place du Tertre contre le folklore à touristes et nous y revenions quand même, avant d'aller nous faire pardonner Dieu sait quoi au mur des Fédérés. Et nos périples toujours nous ramenaient à la Seine et à ses quais,
côté rive gauche et Boulmiche, où j'ai amarré pour longtemps un cœur de 18 ans, gros, sans doute, comme un chagrin secret. À Paris, quand je musarde, je renoue sans un mot avec les fils cassés et la mémoire d'autrui. J'ignore parfois sur quelle piste me conduisent mes pas, que ce soit rue du Télégraphe, de la Villette ou du Borrégo. Des noms résonnent dans des histoires anciennes qui ne devraient plus être tout à fait les miennes et qui me hâlent pourtant, cœur serré, mais content. Sur les hauteurs de Belleville, c'est ma grand-mère que j'entends raconter le funiculaire et à nouveau ces taudis où l'on grandit à là-bas comme je te pousse, la misère, l'ivrognerie et les coups dans les familles nombreuses et pauvres à l'orée des années 1900. C'est aussi Bagnolet, place Gambetta, un 14 juillet qui, pour leur première rencontre, fit danser mes parents. Mais à Paris, quand je musarde, je cherche surtout à renouer avec l'ami d'enfance qui ne m'attend pas, qui d'ailleurs n'attend plus personne. D'un pont, l'autre, dans les rues, les couloirs du métro, je le devine souvent marchant à mes côtés, toujours un peu gavroche. Je n'entends plus de lui que la question qu'il répète, comme à son insu. La poésie est vraiment ce qui reste quand on a tout bradé. Pour toute réponse, je l'entraîne avec moi, au gré de flâneries rêveuses, vers la butte aux cailles ou la rue Mouffetard, avant de lui payer un verre au Harris Bar, histoire qu'il n'oublie pas que Paris est une fête, même si depuis belle lurette, il n'y a plus convié. Voilà, c'était quelques extraits de ce très, très, très beau livre de Michel Baglin, Un présent qui s'absente, publié aux éditions Bruno Doucet, un livre qu'il faut vraiment maintenant relire de toute urgence pour ne pas oublier l'inoubliable Michel Baglin.
Tu marches dans une ville dont tu sais tout, et pourtant chaque regard croisé est une planète où tu n'iras jamais. Et parfois, c'est exactement cela, ton désespoir.
Toute petite chanson de 30 secondes, tu marches dans une ville, d'Yves Simon. Je vous propose, sans plus tarder, de rejoindre notre ami Claude Verset pour sa chronique mensuelle, la première de l'année.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Pour la reprise de cette nouvelle saison radiophonique, je vous propose de revenir sur un des livres majeurs de la poésie du XXe siècle, Nadja, le récit d'André Breton, et de nous intéresser précisément à cette figure féminine de Nadja, d'en découvrir les traits et l'histoire véritable, grâce au livre de l'écrivaine néerlandaise Esther Halbach, Léona, héroïne du surréalisme, aux éditions Actes Sud. Livre qui, dès le titre, rend à Nadja son identité véritable, à commencer par son prénom, Léona. Mais une remarque d'abord sur le livre lui-même. L'auteur a certainement le tort de courir en même temps deux objectifs qui s'avère d'un inégal intérêt. Le premier étant la recherche biographique, où Esther Halbach fait œuvre de perspicace défrigeuse. Le second est une tentative d'exégèse de Nadja, où, de mon point de vue, l'auteur s'égare à vouloir expliquer le livre d'André Breton en tirant le fil unique de l'alchimie et de l'ésotérisme. Alors restons-en à la biographie, et à ce visage que l'on découvre à travers plusieurs photographies de cet inconnu qui laisse à la poésie une trace indélébile. Son nom lui est rendu, Léona Camille Ghislaine Delcourt. Rappelez-vous, Mademoiselle D, l'apostrophe dans Nadja, un policier. Elle est née à Saint-André, près de Lille, le 23 mai 1902, est décédée à l'asile de Bailleul le 15 janvier 1941. Il est confirmé qu'elle mit un enfant au monde dès 1920. Et cette filiation, finement mise à profit, permet les principales avancées de l'ouvrage. Car c'est la petite fille de Léona qui mit à disposition de l'auteur les documents qui en permirent les principales avancées. Difficile désormais de lire Nadja, comme l'application des principes formulés par Breton dans la première partie est élevée à la suite au rang de dogme, selon lesquels la réalité doit être respectée hors de toute affabulation romanesque, dans les faits comme dans le nom des personnages et jusqu'à la couleur des cheveux. Est-il possible que la promeneuse réelle, abordée par Breton, ait été autre que blonde, puisque telle Nadja apparaît au narrateur? Ben, au vu des preuves photographiques présentées, les cheveux d'avoine retournent au mythe. Et on appréciera désormais toute l'ironie de Breton à prétendre que, je cite, « le ton adopté se calque sur celui de l'observation médicale ». Les résultats obtenus sont d'autant plus déconcertants qu'ils paraissent s'être tenus depuis toujours à portée de main. Était-ce parce qu'il fallait résoudre une question de femme, selon l'auteur, une question de femme, si bien qu'on s'en désintéressa, ou qu'il fallait passer outre les présupposés et interdits énoncés par Breton, puis sacralisés par ses commentateurs? Esther Halbach tire tout le parti possible de sa position excentrée, d'étrangère à la sphère française et du milieu surréaliste, et agit heureusement en toute inconscience et témérité. Elle déchiffrera le nom de Delcourt sur une facture, servant de support à un dessin pourtant publié dans Nadja. Et la petite fille de Léona, qui lui confiera les précieuses photos de l'album de famille, avoue espérer depuis 30 ans qu'on s'intéresse à l'aïeule scandaleuse et fascinante. On trouve enfin confirmation documentée du naufrage de Léona. Pas plus que Nadja, elle ne ressortit de l'asile où elle fut durant 15 ans internée, autant martyre qu'héroïne en définitive, elle dont la principale folie aurait été, selon Breton, de se désintéresser des choses simples de l'existence. Je ne peux mieux conclure qu'en vous conseillant de lire d'Esther Halbach, Léona, héroïne du surréalisme, traduit du néerlandais par Arlette Ounanian, chez Actes Sud. Bonne lecture et à bientôt.
Merci Claude, nous ne manquerons pas de faire l'emplette de ce livre qui éclaire le mystère de Nadja. Je vous propose à présent de rejoindre notre amie Cécile Guivarche pour le choix mensuel qu'elle a fait d'un livre de poèmes, bien évidemment. Nous sommes sur la route inconnue.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je voulais vous parler cette fois d'un gros coup de cœur que j'ai eu pour le tout dernier livre de Julien Bosque qui est paru aux éditions Five Clock et qui s'appelle « La demeure et le lieu ». Donc dans le titre, il y a le mot « lieu ». Ce lieu, c'est un ciel bleu, c'est la description du jardin en fleurs, c'est un phare, c'est vraiment tourné vers l'extérieur, avec, on a l'impression, en apparence, d'une vie simple. Cela semble beau, c'est voilà très posé comme ça. Dans le titre aussi, « la demeure », et là, la demeure en contradiction avec le lieu, c'est l'intérieur, l'intérieur de soi. Ce qui tente d'éviter le feu du naufrage, une demeure qui pourrait accueillir le lieu où on devrait en théorie se sentir bien. Mais il y a aussi le soi et les fatigues, les désillusions qui sont beaucoup plus complexes. Et ce qu'on voudrait croire aussi, en fait, pour passer de l'amorosité à la légèreté. Alors, l'écriture de Julien Bosque, moderne, et tout en gardant une trace de l'héritage des aînés. Et l'ensemble, en fait, de ce livre, La demeure et le lieu, s'agence sur la page, on sent un rythme, on ne compte pas les pieds car les vers sont libres et se disposent comme ils se doivent. À leur place, la nécessité d'écrire avant se taire m'a touchée. À chacun des livres de Julien Bosque, il y a vraiment cette nécessité d'écrire avant de se taire. Et dans La demeure et le lieu, cette nécessité, elle est encore plus frappante. C'est pourtant une écriture calme et posée, avec une grande maturité. Et Julia Bosque a confié ici, aux éditions Paillipioc, certainement l'un de ses plus beaux recueils. C'est un recueil d'autant plus perturbant pour le lecteur qui connaît la fin tragique de Julien Bosque, qui pour moi était un grand poète. Il écrivait à partir de ce qui l'entourait, et tout cela, confronté à son espace intérieur, a créé des images puissantes et percutantes. Par exemple, il a écrit « Si les vents tombent, le ciel s'éclaircit ». Donc de bien jolies choses, la nature, une vie en apparence paisible, mais toujours en arrière-plan du poème, l'idée de jour artificiel, l'idée de la pensée de se pendre. Et ces pensées se trouvent contrebalancées par le dehors où le monde est beau. Cela aide à tenir un moment. Comme ces fleurs, ces pâquerettes qui jouent chaque jour à la vie, à la mort. Comme le framboisier qui est raide, comme la mort, l'hiver, mais revit au printemps. L'idée de se retirer de soi va et vient dans le texte, un phare, un lieu où habitait Julien Bosque, une lumière dans la nuit, la mort qui le regarde. Julien Bosque écrivait pourtant de petites choses anodines, de petits riens qui auraient pu faire croire au bonheur, mais à chaque page la lutte contre ce qui envahit, la mélancolie, une douleur contenue, le dehors et le dedans, la demeure et le lieu. Sans cesse en confrontation. J'ai été très émue par ce livre, je crois que ça s'entend, et je lui accorde une place toute particulière dans ma bibliothèque pour garder en mémoire la mémoire de Julien. Je vous dis à très bientôt pour un prochain coup de cœur. Au revoir.
Et oui, c'est une émission placée sous le signe du deuil après le départ de Michel Baglin, celui donc de Julien Bosque. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à toutes et à tous. On va se quitter avec la chronique mensuelle de Patrick Jockel qui va nous faire part lui aussi de son coup de cœur. Quant à moi, je tire ma révérence. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur la route inconnue. D'ici là, restez fidèles au programme de Radio Rentiel, la radio qui rapproche les hommes. Tout de suite, Patrick Jockel.
Eh bien, bonjour pour cette nouvelle saison. Nous allons commencer par un petit livre qui a été publié aux éditions Gros Texte en 2019. Il s'agit de Éloge du caillou par Marie Loiseau. Et c'est dans une collection toute neuve chez Gros Texte, une collection dirigée par Marion Lafage, La Petite Porte. Éloge du caillou, c'est un petit objet gris caillou, une centaine d'aphorismes ou de courts textes sur, autour, avec, sous, etc. Le caillou. C'est tout juste, tout plaisant, pas aussi simple que ça en a l'air, même si c'est tout simple à lire. C'est évident, comme un caillou, présent comme un caillou, avec ce silence du caillou et sa durée aussi. Bref, c'est un petit bijou à garder sur son étagère et à relire par petit gravier, comme on donne un coup d'œil à son caillou de collection chaque matin ou chaque soir, ça dépend. Hein. Comme une pierre de lettré, ces cailloux fabuleux glanés au dehors et mis en valeur pour leur pure beauté dans un jardin, une terrasse, une table. On peut s'amuser à lire un caillou par jour aussi, comme par exemple au hasard le 25e. Transporter un caillou dans sa poche bouleverse l'ordonnancement du monde. Et puis deux autres extraits. Quand on connaît la famille du caillou, bijou, joujou, pou, hibou, chou, genou, on sait qu'on est entouré d'exceptions. Les vieux cailloux ont la sagesse d'amasser la mousse. Ces voyageurs immobiles ont la beauté des temples détruits et la gravité d'antiques vestiges. C'est aux éditions Gros Texte, Éloge du caillou, Marie Loiseau.